Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans La Voix des Songes. Comme annoncé lors de la précédente émission, nous allons aujourd'hui conclure ce triptyque consacré à la détermination des structures psychiques grâce aux rêves. Lors des deux premières émissions sur ce thème, nous nous sommes intéressés aux névroses, ainsi qu'aux psychoses maniaco-dépressives, plus connues sous le nom de bipolarité de nos jours, et également aux paranoïas. Nous avons à cette occasion présenté différents cas cliniques et les rêves qui les accompagnent afin de montrer quel éclairage les rêves nous apportent sur la structure psychique de ces patients. Je vous invite à vous rendre sur le site internet de la radio, radiofmplus.org, à la rubrique La Voix des Songes pour réécouter ces émissions. Aujourd'hui, nous allons finir de balayer le champ des psychoses en portant notre attention sur un cas unique de schizophrénie. Et nous conclurons en investissant le champ très vaste et hétéroclite des perversions à travers un cas un peu difficile à aborder. Après avoir traité des psychoses à travers un cas de bipolarité et un cas de paranoïa, prenons le temps de nous intéresser à la schizophrénie. Avant cela, revenons dans un premier temps sur l'origine du terme de psychose qui apparaît au XVIIe siècle dans le domaine médical pour qualifier les maladies de l'âme ou autrement dit, les différentes folies. C'est d'ailleurs le sens étymologique du mot psychose, maladie de l'âme. D'un point de vue moderne, on pourrait définir simplement les psychoses comme une perturbation primaire de la relation à la réalité, dont les symptômes manifestent, le plus souvent des constructions délirantes, sont des tentatives secondaires de restauration du lien à une réalité qui leur échappe sans cesse. Lorsque l'on parle de construction délirante, cela peut renvoyer aisément aux persécutions dont se disent victimes les paranoïaques. Mais c'est également le cas chez les personnes bipolaires, comme nous avons pu le constater à travers le rêve de cette patiente, persuadée que si elle laisse des traces, on la retrouvera et on la tuera. Ce qui, dans son cas, n'avait rien à voir avec de la paranoïa. Je vous invite à nouveau à réécouter cette émission sur le site de Radio FM+. Dans le cas de la schizophrénie, nous avons bel et bien affaire à des discours délirants, voire parmi les plus délirants, mais nous n'avons jamais affaire à des constructions délirantes qui tiennent. Ici, au contraire, tout est déconstruit. C'est la structure même de ce que l'on appelle communément la folie, et qui, historiquement, pouvait être interprétée comme des cas de possession, de sorcellerie, et autres manifestations démoniaques. Cette stigmatisation existe toujours quand on constate à quel point les patients schizophrènes sont ceux qui effraient le plus par leur comportement imprévisible. C'est le cas notamment de ce patient que j'ai été amené à rencontrer au CHU de Montpellier lorsque j'intervenais au sein du pôle digestif de l'hôpital Saint-Éloi. L'équipe soignante, médecins et infirmiers, m'avait demandé de passer voir un patient avec lequel ils avaient beaucoup de mal. Sa manière de parler, ses faits et gestes les inquiétaient personnellement, et pour certains, son regard leur glaçait le sang. De plus, son dossier médical indiquait qu'il était suivi depuis des années par un psychiatre et qu'il était sous traitement de substitution. Alors, lorsque vous agrégez toutes ces informations, eh bien, il ne faut pas s'étonner que ce patient ne bénéficiait pas d'une attention particulièrement bienveillante à son égard. Cependant, l'équipe soignante était pleinement dévouée à son travail et cet ancien toxicomane en attente de greffe bénéficiait de toute l'attention nécessaire à son état de santé, mais rien de plus. Et on ne peut pas leur en vouloir. Les soignants, ce ne sont pas des robots, eux aussi, ils sont humains. Donc j'ai été amené à suivre régulièrement ce patient durant tout son parcours de greffe, en amont et en aval, pendant plusieurs mois. Si je me suis rendu compte assez rapidement que j'avais affaire à un patient schizophrène, je m'en suis bien gardé d'en dire quoi que ce soit à l'équipe soignante pour ne pas influencer davantage la vision qu'ils avaient de lui. Petite anecdote avant de nous intéresser aux rêves de ce patient. Peut-être avez-vous déjà entendu dire que les psychoses sont caractérisées par un défaut d'accès au symbolique, notamment par une incapacité à user de la métaphore. Si cela vous paraît compliqué à concevoir, cette anecdote va vous aider à y voir plus clair. Lors d'une de nos premières rencontres, alors que je vais pour conclure et mettre fin à la séance, je lui dis « Mais c'est comme si vous cherchiez la clé de vos problèmes à l'extérieur, alors que vous l'avez dans la poche. » Ce qui est important, ce n'est pas le contexte qui m'a amené à prononcer cette phrase, mais plutôt la réaction que cela a provoquée chez ce patient. Il s'est tout simplement levé, a tâté ses poches et constatant qu'il n'y avait pas de clé, il m'a répondu « Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. » Nous avons bien ici affaire à une incapacité à saisir la métaphore dont j'ai usé. Les auditeurs et auditrices que vous êtes auront très bien compris ce que j'ai voulu dire, sans même tenir compte du contexte. Mais lui, il a pris mes mots à la lettre. Pour lui, les mots n'ont pas de sens caché. Pour lui, les mots sont des choses. Et cette précision est d'autant plus importante pour saisir le rêve qu'un jour il m'a raconté. Voici donc le rêve que m'a raconté ce patient schizophrène. Je suis endormi et durant mon sommeil, je sors de mon corps. Je me promène et je croise d'autres corps. J'essaie d'entrer dans ces corps, mais je n'y arrive pas. Ils sont occupés et on ne me laisse pas entrer. J'essaie, je m'énerve et je me réveille. Si la plupart des patients à l'hôpital viennent ponctuer leur rêve d'un « qu'est-ce que vous en pensez ?», lui, ça ne l'intéressait pas. En réalité, c'est pas que ça ne l'intéressait pas, mais comme nous l'avons évoqué précédemment, pour lui, les mots n'ont pas de sens. Donc ses rêves n'ont pas de sens caché. Il n'y a pas de contenu latent qu'une interprétation pourrait faire émerger. Il n'y a pas de lecture symbolique de ses rêves. Il n'y a que l'expression d'une réalité psychique brute. Ainsi, lorsqu'il énonce qu'il sort de son corps et qu'il essaie d'entrer dans celui des autres, il faut l'entendre comme lui, il l'entend, et non pas comme nous, on l'entendrait. Si cela peut sembler complètement délirant et irreprésentable pour nous, c'est pourtant le propre de la schizophrénie que de produire des délires massifs, tels que des hallucinations auditives et visuelles, qui sont pour les patients schizophrènes leur réalité. Pour rappel, le terme de schizophrénie est construit à partir des mots grecs « schizo », qui signifie « fendre », séparé en deux, et « phrène », qui renvoie à l'âme et à l'esprit en général. Il est donc tout à fait envisageable que ce patient schizophrène exprime ici une coupure, une scission entre le corps et l'esprit, si bien qu'il puisse s'halluciner lui-même hors de son corps. Nous ne serons alors pas étonnés que par la suite il se balade et essaie d'entrer dans d'autres corps, puisque pour lui, corps et esprit ne sont pas liés. Malheureusement, il évolue dans un monde de névrosés qui, eux, tiennent par-dessus tout à leur corps et qui ne sont pas prêts à l'abandonner si facilement, et encore moins pour le céder à quelqu'un d'autre. Il se trouve donc confronté à une impossibilité à posséder le corps d'un autre, ou à posséder n'importe quel corps. Et cette impossibilité qu'il ne comprend pas, qu'il n'arrive pas à métaboliser psychiquement, est très probablement à l'origine de ces irruptions de violence injustifiées qui effraient tant les soignants. Les rêves ont été une nouvelle fois d'une aide précieuse pour comprendre le fonctionnement singulier de ce patient, inhérent à sa structure psychique, ce qui nous a permis également de comprendre son comportement. Ainsi, l'équipe soignante a mieux accepté l'étrangeté de ce patient, ce qui a été bénéfique pour tout le monde. Pour finir, intéressons-nous maintenant aux perversions. Il est difficile de concevoir la notion de perversion autrement que par référence à une norme. Autrement dit, il y a des perversions parce qu'il y a des normes. On pourrait ainsi définir simplement la perversion comme une structure psychique qui pousse à des modes de jouissance hors normes. C'est pourquoi une structure perverse trouvera des champs de jouissance très variés en fonction des normes qui évoluent dans l'espace et dans le temps. Par exemple, de nos jours, la pédophilie est considérée comme un acte pervers des plus abominables et est sanctionnée comme telle. Alors qu'à d'autres époques, cette pratique était encouragée. Ainsi, à la lecture de Platon, on pourrait être dérangé de nos jours par des passages vantant les mérites de la pédérastie. Cela ne fait pas pour autant de Platon un pervers, mais plutôt un homme de son temps. On pourrait également réfléchir sur l'évolution de l'acceptation sociale de l'homosexualité, en particulier l'homosexualité masculine. Si de nos jours les événements vont vers une meilleure acceptation de l'homosexualité, il n'est pas rare de voir et d'entendre des personnes considérant toujours l'homosexualité comme une perversion. Encore une fois, durant l'Antiquité gréco-romaine, l'homosexualité était acceptée et il ne leur serait pas venu à l'idée de condamner l'homosexualité. Alors qu'à d'autres moments de l'histoire, une simple accusation d'activité sodomite suffisait à vous condamner au bûcher. Tout cela pour bien mettre en évidence qu'on ne peut parler de perversion qu'en rapport à une norme. En ce qui concerne l'homosexualité, sujet d'actualité toujours très sensible à aborder, d'un point de vue psychologique, il n'y a pas de lien avéré et établi entre homosexualité et structure perverse. Tous les homosexuels ne sont pas pervers, et tous les pervers ne sont pas homosexuels, loin de là. Ces propos préliminaires, que j'espère les plus clairs possibles, sont là pour introduire le cas d'un jeune patient homosexuel. Cette précision est importante car il se présente d'emblée comme homosexuel. À peine a-t-il dit son nom qu'il enchaîne d'un « et je suis homosexuel », ce qui en fait également son identité au même titre que son nom. Il vient spécifiquement pour travailler sur ses rêves qui reprennent peu ou prou le même schéma narratif illustré par le rêve suivant. Je suis sur une planète océan composée de deux îles continents. Il y a l'île des hommes, une dictature militaire avec une société pyramidale au sommet de laquelle règne un homme tout puissant. Moi, je suis sur l'île des femmes dans une société égalitariste et non violente. À un moment, l'île des femmes choisit d'en finir avec les hommes et décide de partir en guerre. Tout le monde se regroupe autour d'un grand bassin d'où surgit une femme rayonnante, habillée tout en blanc. Et je dis à mes amis, qu'est-ce que j'aimerais lui ressembler ? On retrouve dans ce récit onirique l'opposition radicale entre l'homme et la femme et l'identification à une femme mythifiée qui reviennent invariablement dans les rêves et le discours de ce patient. Si bien qu'il finira par reconnaître qu'il se considère comme une femme qui vit dans un corps d'homme. Et ici, il n'est pas question de possession, comme dans le cas du patient schizophrène rencontré précédemment. Mais est-ce que pour autant, cette question du genre fait de ce patient un pervers ? Est-ce que l'inadéquation entre le genre anatomique et le genre psychologique est signe d'une structure perverse ? De mon point de vue, non. Si la perversion est intimement lié à une norme, tout écart à la norme n'est pas forcément le signe d'une structure perverse. Mais par la suite, les choses se sont compliquées. Si son identité d'homosexuel, il l'énonce d'emblée, son identification à la femme lui a été arrachée par ses rêves et il a bien été obligé de le reconnaître à voix haute pour la première fois dans le cadre de l'analyse. Cela aura pour conséquence de le rendre de plus en plus agressif et surtout, à partir de ce moment-là, il a essayé de me convaincre par tous les moyens que tous les hommes étaient effectivement homosexuels et en particulier, il a voulu me démontrer que j'étais moi aussi homosexuel sans rien connaître de moi. Et c'est à ce moment-là que l'on rencontre le sujet pervers, celui qui inverse les normes, celui qui est persuadé d'avoir mieux compris les choses que les autres, celui qui force violemment pour convaincre, pour soumettre l'autre à sa vision des choses. Dans ce cas-là, que faire ? pas grand-chose, si ce n'est être patient, résister aux attaques incessantes jusqu'à ce que l'engrenage se grippe de lui-même. Et donc, après avoir pris le temps d'entendre et de comprendre sa vision des choses, je lui ai simplement dit qu'il y avait quelque chose que je ne comprenais pas dans sa vision du monde et je lui demandais de bien vouloir m'éclairer. S'il se considère comme une femme, est-ce que ses partenaires sont des hommes ou des femmes ? Des hommes, évidemment. Je suis homosexuel, me répond-il agacé. Mais à ce moment-là, si vous êtes une femme et homosexuelle, est-ce qu'il ne serait pas plus logique, en appuyant sciemment sur le mot « logique », que vous soyez en couple avec une femme ? De mon point de vue, la réponse à cette question importe peu. Et d'ailleurs, il ne s'y est pas attardé. Le but, ici, est de lui faire comprendre que quelqu'un a réussi à trouver la faille de son raisonnement et le mettre en défaut. Non pas pour l'humilier, le casser ou le briser, mais tout simplement pour mettre à mal son sentiment de toute puissance. Ainsi, désormais, il sait qu'on peut le mettre en défaut, il sait qu'on peut découvrir une faille chez lui, et donc on peut espérer, c'est le mieux qu'on puisse faire, et c'est déjà pas mal, qu'il sera plus prudent par la suite avant de s'attaquer à quelqu'un d'autre. Encore une fois, et comme je l'ai souvent répété, les rêves n'ont rien révélé d'évident quant à la structure psychique de ce patient. Cependant, les rêves ont été à nouveau un point d'ancrage essentiel à partir duquel la parole du patient a pu se déployer et nous éclairer ainsi sur son fonctionnement psychique. Voilà pour aujourd'hui. Vous pourrez réécouter cette émission dès ce soir à 21h sur 91FM ou à n'importe quel moment en podcast sur radiofmplus.org à la rubrique La Voix des Songes. Pour celles et ceux qui voudraient participer à l'émission, vous pouvez nous contacter au standard de la radio au 04 67 03 28 39 ou via l'adresse mail analysederêves@radiofmplus.org. On se retrouve dans deux semaines et d'ici là, faites de beaux rêves!